I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour Okaya.
Bonjour Grace.
Bienvenue dans ce nouvel épisode de Kif Taras, le podcast qui saute à pieds joints dans les questions raciales.
Ici, on parle d'arabes, d'asiatiques, de blancs, de roms, de noirs, tout ça sans complexe.
Alors aujourd'hui, on a le grand plaisir d'être déconfinés. Ça fait longtemps qu'on n'était pas, on s'était pas vus. Et on aborde un sujet aujourd'hui dans Kif Taras, un sujet enfantin à la fois et essentiel dans notre société. La littérature jeunesse et les représentations pour nos enfants dans les livres. Alors depuis plusieurs décennies déjà en France, il y a eu un revirement qui a été opéré dans les neurosciences et les sciences de l'éducation. Hein, et ça fait du jeune enfant un petit être en développement, dont le cerveau est particulièrement vulnérable et absorbant, hein, comme une éponge qui est en constant apprentissage de ce qui l'entoure. Et les livres, bien sûr, font partie de l'univers des enfants. Donc la lecture du soir, c'est un incontournable de la routine parentale. La bibliothèque, c'est une sortie familiale. Et les personnages de leurs livres préférés les accompagnent encore longtemps quand ils arrivent dans l'âge adulte. Et donc l'importance des représentations de la littérature jeunesse, c'est notre sujet d'aujourd'hui.
Et pour nous accompagner dans ce premier Kif Taras de retour en studio, nous avons le grand plaisir de recevoir Laurane Safou, autrice d'ouvrages en littérature jeunesse, blogueuse et afroféministe. Donc tu es à l'origine de deux ouvrages très remarqués, Laura. Déjà bonjour. Hein.
Bonjour.
Merci d'être parmi nous. Donc ton premier ouvrage qui a vraiment fait l'objet d'une très très belle visibilité. Ça s'appelle « Comme un million de papillons noirs » et le deuxième « Sur le chemin de Jada » qui est sorti l'année dernière, tous deux illustrés par Barbara Brun et édités aux éditions Cambourakis.
C'est ça, tout à fait.
Merci.
Alors dans Kif Taras, on a un petit rituel quand on commence l'émission. On demande à notre invitée si elle se situe sur le plan racial et si oui, comment. Par exemple, moi je suis perçue comme une femme asiatique et Rokaya comme une femme noire. Et toi Laura, est-ce que tu te situes, si oui, comment?
Oui, je me situe comme étant une femme noire. Voilà.
Tout simplement.
Voilà, tout simplement.
Tout simplement.
Est-ce qu'il y a un moment dans ta vie où tu as découvert, où tu as commencé à te définir comme ça?
Non, en fait, je pense que c'était quelque chose qui est venu très tôt parce que ma mère verbalisait très facilement ces questions-là. C'est-à-dire qu'elle m'a toujours dit, alors tu es française, mais tu es une femme noire en France. Et donc ça supposait à la fois un rapport au milieu scolaire où parfois je pouvais être sujet aussi à du harcèlement en fait raciste. Donc c'est des choses en fait qui sont venues très très tôt. Mais même si je m'identifiais comme une petite fille noire, je ne savais pas forcément ce que ça voulait dire, ce que ça recouvrait. Donc, j'ai jamais eu de mal à me situer comme étant une femme noire, mais la manière dont, enfin, ce que ça recouvrait en tant que tel, les micros et macro-agressions, etc., c'est venu au fur et à mesure, en fait.
Et le harcèlement raciste dont tu parles quand tu étais petite, c'était quoi comme
C'était vraiment en fait du harcèlement en fait dû à mon physique, donc genre t'es noire, t'es laide. Alors faut savoir aussi que j'ai grandi en province dans une ville majoritairement blanche, donc j'étais souvent la seule petite fille noire de la classe ou alors on était deux ou trois ou des choses comme ça. Et donc oui, c'était t'as un gros nez, t'as des grosses lèvres, en fait tous les traits qui sont souvent caricaturés en fait dans une esthétique coloniale pour représenter les noirs en fait. Donc ça a commencé en primaire, ce type d'harcèlement scolaire. Et au fur et à mesure, je pense que ça s'est un peu dilué avec l'adolescence. C'est-à-dire que c'était moins explicite, mais il y avait toujours un peu ce côté « t'es noire, donc t'es moins belle ». Ou « t'es noire, donc t'es un peu différente ». »« T'es noire, t'es pas vraiment française », etc., etc., etc. Donc ça a toujours été un petit peu à la périphérie. Et même dans des cours, je sais pas, d'histoire, quand on parlait d'Afrique, tout le monde se tournait vers ça.
Qu'est-ce que t'en penses hein?
Est-ce que tu veux me dire ton expérience? Bah, je suis née à Orléans, donc j'aimerais bien, mais je me sens pas concernée. Donc ouais, c'est un petit peu, voilà, c'est un peu dessiné au fur et à mesure, quoi.
Alors, je voudrais vous lire un extrait d'un article de la journaliste Doane Bui qui a écrit dans l'Obs. Et c'est intitulé « C'est pénible, ces Chinois qui n'ont pas d'humour ». Ça a été publié en 2018 lors de la rediffusion à la télé du spectacle de Kev Adams et Gad Elmaleh. Donc ça parle des représentations. Elle dit « Je me souviens d'avoir lu, petite, les albums de Lucky Luke. Il y avait le personnage de Ming Lifu, le blanchisseur chinois. Il avait une tête toute jaune, avec une grande natte. Il était le personnage comique de la BD et disait des trucs comme « C'est immense honneur de recevoir noble étranger dans misérable boutique » en se prosternant tout le temps. Personnellement, je ne l'ai jamais trouvé spécialement hilarant ce Ming Lifu. Fu Manchu non plus d'ailleurs. Mais à l'époque, tout le monde dessinait les Chinois avec des yeux en trait et la peau toute jaune. L'air fourbe donc, contrairement à l'air ahuri des Noirs grimpés en bon sauvage de Tintin au Congo. Bref, faire les yeux bridés, dire Ching Chong ou face de citron, c'était considéré comme rigolo. J'hésitais à utiliser le feutre jaune pour colorier ma tête quand je me dessinais, quand même. Je n'ai jamais trop bien compris cette histoire de peau jaune. Et toi, Laura, que lisais-tu quand tu étais petite?
Alors, faut savoir, déjà, j'étais pas une très grande lectrice. J'ai très vite commencé à écrire et à faire mes propres histoires avant vraiment de me
le
tourner.
Le snobisme. Ah, j'aime pas les histoires que je trouve. Alors moi, j'écris mes.
Non, mais c'est génial. Mais en même temps, ça casse le mythe de la grande lectrice. De genre, j'avais une grande bibliothèque.
Mais
c'est
pour ça,
ça que en fait.
Et en fait, il y a trop de. Et surtout, c'est ça, c'est que je suis souvent face à des jeunes, des enfants ou des adolescents qui me disent, mais moi, j'aime pas trop lire et donc je peux pas. Du coup, faire des livres, alors que voilà, pour moi, je suis un petit peu l'antithèse du truc. Et c'est surtout que j'étais vraiment biberonnée à tout ce qui était les dessins animés ou le cinéma, etc. Donc j'étais une grosse fan de Disney, en l'occurrence. Et c'est en voyant l'absence, par exemple, de Princesse Noire à l'époque que j'ai commencé, en fait, vers 8 ans, à faire des petits cahiers avec des crayons, etc., à dessiner des histoires où il y avait des petites filles qui me ressemblaient, en fait. Mais si c'était pas du tout verbalisé.
À 7-8 ans, t'as fait ça ?
Ouais, je l'ai encore.
Ah ouais, c'est trop. Ah, bien.
Donc j'ai vraiment commencé comme ça.
Oui, parce que la première princesse noire Disney, c'est Tiana.
C'est ça.
Et elle arrive. C'est quoi, c'est 2015. Enfin,
ouais, c'est ça, 2015-2016.
Ah,
ouais.
Non, c'est
aussi
la princesse à la grenouille. Ouais, c'est plus avant 2010. Hein, je
d'accord.
Pense.
Ah, ouais. Ah d'accord.
Ah d'accord.
Et ouais. Bah, écoute, moi j'avais l'impression, mais non, mais en fait, peut-être que tu sais, ça nous rajeunit pas.
Ouais,
comme on dit, ça nous rajeunit pas.
Même sur ça, il y avait une polémique parce qu'il lui avait donné un nom, un autre prénom à la
ouais,
base.
Et puis même.
Et puis c'était un nom qui était caractéristique du cliché de la femme esclave et du coup ils ont changé son prénom.
Ah d'accord. Mais... Ah j'ai pas lu cette.
Ah ouais, je la connaissais comme Tiana aussi. Mais et du coup côté livre, donc je me tournais, en tout cas quand je me tournais vers des livres, c'était plus de la bande dessinée. Donc il y avait les fameux Tom Tom et Nana, grande fan aussi.
Ah.
mais ouais, j'avais pas. J'ai quand même ce souvenir très net de la grosse bibliothèque qu'on avait à l'école. Où on nous disait « Allez choisir 3 livres à ramener à la maison ». Et je prenais que Tom Tom et Nana parce que le reste, je ne me voyais pas trop, en fait. Je ne voyais pas de personnages qui me ressemblaient. Je ne voyais pas d'histoires, même qui renvoyaient à des réalités, en fait, qui soient similaires à celles de ma famille ou des choses comme ça, en fait.
Tu avais déjà cette conscience étant petite parce que moi, c'est vrai que je ne voyais pas de personnes qui me ressemblaient. Mais j'arrivais pas à formuler ce manque, en fait. Je n'étais pas capable de me dire, ah, Diane, personne ne me ressemble. C'était, tu vois ce que je veux dire? C'était un malaise, mais qui n'était pas du tout clair dans ma tête.
Ouais, c'était clairement un malaise. Et du coup, ça me. Je crois que c'est ça aussi qui a un peu influencé mon rapport à la lecture, en fait. C'est que j'arrivais pas à savoir pourquoi. Mais je ressortais toujours avec j'avais l'impression de toujours devoir faire des compromis, même si j'avais pas les mots vu que j'étais très jeune, mais j'avais l'impression de devoir choisir des bouquins où de toute évidence il y aurait pas de personne qui me ressemblait. Et je pense que c'était assez inconscient. Et je pense qu'il y avait quand même cette recherche de ne serait-ce que pour le carnaval, en fait, comme quand tes copines s'appuient sur des livres qu'elles ont lus ou des dessins animés, etc., pour choisir leur costume. Moi, je m'en rappelle à chaque fois batailler en me disant, je sais pas comment, peut-être que je vais choisir un métier, peut-être, plutôt qu'un personnage, puisque j'en avais pas. Donc, vraiment, ça s'est dessiné par de tout petits détails au fur et à mesure, quoi.
Et je viens de chercher La princesse et la grenouille, sortie en 2009 aux États-Unis, 2010 en France.
Ah, ouais. Ah d'accord.
Alors, quel détail, vraiment la bonne année.
Alors, on peut citer effectivement dans la littérature jeunesse classique énormément de clichés, comme Sambo le petit négro de Hélène Bannerman en 1899 aux États-Unis, Tintin au Congo en 1931, qui a été réécrit pour être moins raciste, mais qui est quand même resté très problématique. Hein. On voit que ça partait de loin. Le Peter Pan de J.M. Barnes avec les Amérindiens notamment. Il y a énormément, en fait, l'idée de comment dire, les mythes américains, que ce soit les cow-boys, les indiens, etc., ont beaucoup nourri, en fait, en termes de clichés racistes, la littérature jeunesse. Donc, ça a vraiment accompagné des enfants dans leur, tout simplement, dans leur croissance. Et la question de la conscience de soi raciale a été très, très bien mise en scène dans une recherche qui date de 1947 aux États-Unis, hein, qui a été faite par des psychologues Kenneth et Mamie Clark. Le fameux test de la poupée, où, en fait, on demande à des enfants qui ont, à partir de 3 ans, ce qu'ils pensent de poupées qu'on leur montre. Donc, soit les poupées sont noires, soit les poupées sont blanches. Et ce qui est vraiment fou, c'est que les enfants noirs, en fait, reconnaissent dans la poupée noire des caractéristiques extrêmement négatives. Donc, qu'elle est moche, qu'elle est méchante. Et quand on demande à ces enfants à quelle poupée tu ressembles, ils s'identifient à la poupée noire. Donc, ça montre à quel point ils ont complètement intériorisé les clichés qui sont associés aux personnes noires, mais qu'ils se les attribuent à eux-mêmes. Donc, ça montre effectivement combien les représentations imprègnent les enfants et dès l'âge de 3 ans. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu as en conscience lorsque aujourd'hui tu produis des histoires? Bon, on va en parler plus en détail de tes histoires, mais c'est vrai que toi, tu as mis en scène des petites filles noires dans des récits. Mm-hmm. Est-ce que tu avais ces représentations en tête?
Complètement, puisqu'en fait, quand j'ai commencé à travailler sur Camion de papillon noir avec Barbara Brun, du coup l'illustratrice, ça s'est vraiment dessiné comme toutes les choses que je ne voulais pas. C'est-à-dire qu'au niveau de l'esthétique, le côté on met alors il y a déjà cette tendance à représenter des personnages noirs en européanisant en fait les traits, donc à faire des petits nez pointus, des noirs aux yeux verts ou des choses comme ça, et sans vraiment chercher soit une vraie valorisation de ces traits-là, c'est-à-dire bah, pourquoi on a le droit de voir des lèvres charnues, on a le droit de voir des nez ronds, etc. Mais voilà, soit c'était carrément cette européanisation des traits, soit j'avais le choix avec l'esthétique coloniale, c'est-à-dire les noirs avec des grosses lèvres, les cheveux crépus qui sont juste des gribouillis. Ça, c'est un truc hyper présent même dans la bande dessinée des années 90, et qui, voilà, il y a un peu cette espèce de d'état général où personne juge utile de travailler la représentation des textures de différents types de cheveux crépus, de couleurs, ou même, voilà, la question des carnations aussi, dans Camion de papillon noir, ça a vraiment été un choix de montrer que, oui, il y a des personnes noires dans ce livre, mais en fait, elles sont de différentes carnations, de différents physiques, certaines avec des cheveux courts, certaines avec des cheveux plus ou moins longs, certaines avec des cheveux, des locks, etc., etc. Donc, je savais clairement tout ce que je ne voulais pas, et du coup, ça a un peu dessiné ce qui manquait, en fait, et ce que je n'avais jamais vu au fur et à mesure dans les livres pour enfants, sachant que je suis vraiment arrivée à m'intéresser à la littérature jeunesse par des parents. C'est-à-dire que sur mon blog Mrs. Roots, que je tiens depuis les années 2013 sur les questions de littérature afro, etc., j'ai demandé en fait à des parents comment ils faisaient pour trouver des bouquins pour leurs enfants. Et quand vous êtes face à des parents afro-descendants qui vous disent bah, j'ai le choix entre Petit Ours Brun un Martine où on montre juste une petite fille noire qui tient la malle de Martine. Bon, voilà, en fait. C'est un peu limité. Et même les livres, il y avait aussi ça aussi, tous ces livres jeunesse qui ont tenté de vouloir parler de racisme, à chaque fois, on retombe dans les clichés. C'est-à-dire que soit on a le petit garçon, la petite fille noire qui se réveille un jour et ne s'aime pas. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas à cause de qui, etc. Genre, le désamour viendrait tout seul un beau matin. soit on a un petit peu ce truc de, si on parle du racisme, donc il faut passer par le prisme de la diversité et donc faire cette espèce de festival où on a plusieurs personnages racisés qui vont montrer leur culture dans des tenues traditionnelles, genre comme ça, en plein dans la rue. Enfin, c'est incroyable, quoi. C'est incroyable. Donc, c'est beaucoup d'exagération. J'ai tendance, en tout cas, quand je fais des livres pour enfants, à travailler sur ce que je ne veux plus voir. et en fait, c'est là où on réalise qu'il y a plein de choses en fait à explorer aussi.
Est-ce que tu peux nous rappeler rapidement l'intrigue de ces deux histoires, justement, et qu'est-ce qui a conduit à raconter ces histoires-là?
Alors, il y a comme un million de papillons noirs, du coup, qui est l'histoire d'une petite fille nommée Adé, qui est moquée pour ses cheveux par des amis avec qui elle est dans un parc un jour, et qui va chercher du réconfort auprès de sa mère, en lui disant, voilà, maman, je n'aime plus mes cheveux, je veux défaire mes nattes, je ne les aime plus. Et donc, sa mère va essayer d'utiliser l'allégorie, en fait, des papillons noirs que Adé aime, pour la pousser à s'en occuper autant qu'elle aime les papillons. Donc Adé va la prendre au mot, dans le sens où elle va commencer à s'occuper des cheveux en espérant que des papillons noirs en ressortent tous les soirs. Donc tous les soirs, elle va essayer, elle va utiliser la crème de coco, la brosse, etc., en espérant que des papillons noirs sortent de sa chevelure et prouvent finalement sa beauté. Et elle va découvrir que justement, il y a quelque chose de plus que des papillons qui peuvent ressortir de ce travail-là. Et donc, elle va chercher à la fois de l'aide auprès de ses amis, à la fois de l'aide auprès de ses tantes. Donc, il y a un petit peu tout ça qui se profile. Et il y avait vraiment cette importance pour moi de mettre en avant aussi l'entourage qui peut aider dans ce genre de questionnement. Et donc ça, c'est pour quand même Papillon Noir, donc qui, à la base, était une commande de la maison d'édition indépendante qui me l'avait demandé à la base. Donc c'était la maison d'édition Billy Bock, qui aujourd'hui a fermé, mais qui était une petite maison d'édition indépendante, qui travaillait vraiment sur la question de la visibilité, en fait, d'une réelle diversité, en fait, de représentation jeunesse, que ce soit sur le handicap, que ce soit sur la diversité ethnique, que ce soit sur la représentation de différentes familles homoparentales, par exemple, et donc qui est venue en me demandant si je pouvais créer une histoire autour de la citation de Toni Morrison, qui a inspiré le titre, et qui donc Toni Morrison, qui comparait l'afro à comme un million de papillons noirs dans son roman Délivrance, du coup. Ensuite, pour le chemin de Jada, alors ça, c'est une création que j'ai faite du coup avec Cambourakis, avec qui je travaille aujourd'hui, et donc qui suit donc des petites jumelles, donc Iris et Jada, qui se ressemblent en tout point, sauf que Jada est plus foncée que Iris. Et donc Jada note tous les compliments que sa sœur obtient, mais se demande pourquoi elle a seulement droit à des comparaisons à du charbon, à des corbeaux, pourquoi elle n'a pas le droit finalement aux mêmes attentions que sa sœur, en fait, jumelle. Et donc, un beau jour, fatiguée d'entendre notamment sa grand-mère la comparer à un enfant de la nuit, elle se dit « je vais partir ». Je vais prendre mon petit baluchon, je vais chercher ces fameux enfants de la nuit qui me ressemblent, parce que peut-être qu'eux, ils sauront m'accepter, peut-être que je suis. Et donc, on va suivre Jada dans cette petite quête, je ne dis pas la fin.
Mais... Oh, tu ne spoiles pas. Ça se finit bien.
Voilà.
Voilà. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que dans un livre, tu abordes, donc dans celui-là, le colorisme, mm-hmm. cette façon de valoriser les peaux les plus claires parmi les carnations noires. Mm-hmm. Et dans l'autre, tu parles de la manière, de l'esthétique qui est valorisée ou dévalorisée autour du cheveu dit crépu ou frisé. Et en fait, est-ce que c'est le thème qui t'est venu et tu as voulu le mettre en scène pour les enfants? Est-ce qu'il y avait un but? Est-ce que tu pensais à des enfants en particulier? Ou est-ce que tu te projetais, toi, petite fille, à la lecture de ces livres? Qu'est-ce qui a nourri ta réflexion?
Ce qui m'a vraiment nourri pour quand même Papillon Noir, c'était ma propre expérience, en fait, puisque ce que vit Adé voulant rentrer chez elle et dire à sa mère, sans vraiment lui dire, en fait, ce qui s'est passé, qu'elle ne s'aime plus, c'est quelque chose que j'ai vécu moi-même plus jeune. Et surtout, en fait, j'ai été face à ma mère qui m'a dit, mais c'est pas parce que tu reçois des critiques sur tes cheveux, en fait, que ça enlève ta beauté. C'est quelque chose que je voulais vraiment concentrer dans le livre. Et donc, je suis partie de ce petit souvenir-là pour créer quelque chose déjà de poétique, parce que c'est quand même... j'estime que c'est pas parce qu'on aborde des thématiques assez dures qu'il faut s'empêcher, en fait, d'aborder de la poésie. Et je voulais vraiment quelque chose de léger. Alors, la sortie de la lecture, en fait, pas quelque chose qui plombe l'ambiance non plus. Et pour le colorisme, pareil, en fait. Donc, j'ai une fratrie où on est quatre. Et donc, je suis plus claire que ma petite sœur. Et de toute façon, avec des questions même de... Enfin, dans mon afroféminisme même, c'est des questions qui se posaient, etc. Et c'est vrai, je me suis dit, mais on n'a pas... Pour moi, il y a vraiment un enjeu de responsabilité dans la littérature jeunesse. On ne peut pas vouloir juste dire il existe du colorisme et ne pas fournir un support où on pointe qui produit ce colorisme-là. Dans Le chemin de Jada, il y a la grand-mère, en fait, de Jada qui tient des propos coloristes, donc ce n'est pas seulement l'extérieur. Pareil, dans Quand il y a un papillon noir, c'est bien des enfants qui disent à Adé tes cheveux, ils sont laids, etc. etc. Donc je pense qu'il y a... Je pars toujours peut-être d'expériences soit personnelles ou soit de sujets qui me tiennent à cœur pour les développer et surtout pour pointer aussi le rôle, en fait, que chacun a autour de ces questions-là. Des profs aujourd'hui qui présentent mes livres en classe, ils sont obligés, en fait, d'aborder ces questions-là avec les enfants. Ils ne peuvent pas juste dire « Ah, c'est une histoire, on va passer ça sous le coude, etc. » Donc ça force une conversation. Et c'est vraiment ce que je vise en général pour ce type de support.
Alors les livres ont été tous deux bien reçus. Bon, sur Le chemin de Jada, c'est assez récent, donc donc j'imagine que tu n'as pas trop encore de vu qu'il y a eu le confinement, etc.
Ouais.
Mais comme un million de papillons noirs, tu peux nous rappeler le nombre de tirages que vous avez fait?
Ouais, on est à 11 000 tirages.
Ouais.
Et c'est, bravo, félicitations.
Merci.
Est-ce que tu peux nous dire justement, parce que voilà, ça a été compliqué quand la maison d'édition a dû fermer ses portes. Tu as dû retrouver une nouvelle maison d'édition et tu as fait face à un certain nombre d'embûches. Est-ce que tu peux nous raconter ce petit chemin et la manière dont on recevait ton histoire?
Alors, quand en 2017, Billy Bock ferme ses portes pour des questions indépendantes à la gestion de, enfin, à la publication du livre, on se retrouve avec un livre qui a marché et qui n'est pas dispo en plus en librairie, parce qu'à l'époque, il était seulement accessible. En commande en ligne et surtout qui a une couverture médiatique en fait. Donc naïvement, même si je connaissais le monde de l'édition et même si je connais la situation du racisme en France, je m'étais dit qu'on a des chiffres en fait. On a des chiffres qui attestent qu'il y a un potentiel de vente, etc. Donc on commence, autant les éditeurs de Billy Bock que moi-même, on commence à démarcher différentes maisons d'édition et... Alors, il y avait vraiment deux arguments. Il y avait l'argument très pragmatique qui était qu'on venait avec un livre fini. Et donc, c'est comme si on demandait à des maisons d'édition d'adopter un livre qui n'est ni dans leur esthétique ou ni... Enfin, bref. Donc, souvent, il y a des refus qui ont été motivés par ça, malgré l'argument qu'on avait de bons chiffres.
Commercial.
Ouais. Voilà, commercial. Et puis, il y a le second faux argument qui était les livres sur les noirs ne se vendent pas.
Mais ça, il existe partout, cet argument-là, pour les films.
Mais c'est ça, c'est ça. C'est ça, ça ne se vendra pas, etc. De toute façon, dès qu'on pointe une communauté minorisée, ça ne vend pas, bizarrement. Mais voilà, donc c'était ça ne se vend pas.
Parce qu'il y a eu tellement de livres sur les Noirs en France qu'on sait que ça se vend pas.
Voilà, je veux dire, c'est comme si on avait...
C'est pas comme si on avait une expérience avec plein d'échecs, quoi, parce qu'il n'y a pas eu de tentative avant.
Ouais, et puis il y avait toujours ce sous-entendu un peu... Il y a toujours un peu ce sous-entendu de oui, c'est pas vraiment, c'est un truc de niche. Ouais, c'était ça, c'était un truc de niche.
Ah oui, c'est ça.
C'est un truc de niche parce qu'évidemment, le petit Nicolas, visiblement, est plus universel qu'une petite AD. Donc,
un petit garçon des années 60.
Voilà, voilà.
Ça parle
à tout le monde.
Ils ne peuvent pas s'identifier.
Voilà.
Moi, j'ai offert le livre à des petites filles noires, mais j'ai aussi offert le livre à mes propres enfants. Mmh. Et je peux vous dire que mes enfants s'identifient très bien à AD. Alors après, évidemment, ils n'ont pas les mêmes cheveux ou ils n'ont pas les mêmes... Mais bon, ils lisent plein de livres où ils ne ressemblent pas au personnage.
C'est ça.
De toute façon, il n'y a pas de problème là-dessus. Ils peuvent s'identifier.
Et en fait, du coup, on se retrouve... je pense que vraiment, ce qui a été le plus violent, même si j'étais déjà assez conscient en fait, de ces réalités-là dans cette industrie du livre, c'est vraiment qu'avant même d'ouvrir la bouche, en fait, on te dise « Ouais, mais nous, on ne publie pas une femme noire qui écrit pour des petites filles noires, en fait. »
C'est gravissime.
Ah ouais. Et c'était « Pas de bonjour, pas de... » Oui, mais ça va, merci.
Direct. C'est vraiment... Il y a du mépris là-dedans. Il y a vraiment beaucoup de mépris. Hein. Ouais. Non.
Donc, franchement, ça a quand même duré bien 6 mois où j'étais vraiment arrivée à un stade où je me suis dit « Bon, bah, c'est dommage. En gros, il sera collector parce qu'il ne ressortira jamais. » Et finalement, une très bonne amie m'a dit que quand Bourakis faisait de la jeunesse, chose que je ne savais pas, je les connaissais que pour leurs essais féministes, justement. Et eux pensaient que le livre était encore disponible. Donc, donc ça a été vraiment une rencontre. Et c'est eux qui ont repris... c'est Cambourakis qui a repris la publication de ce livre-là. Quoi.
Ah, bravo, hein, t'as bien fait d'insister.
Merci.
Et je pense qu'il y a des personnes qui doivent se mordre les doigts. On leur passe bien le bonjour.
Bonjour.
et d'ailleurs, c'est pas... Enfin, je veux dire, tout à l'heure, t'as dit... parce que ton livre ne rentre pas dans les cases de ce qu'on attend du livre de diversité, comme je mets des guillemets là-dessus.
Ouais.
C'est-à-dire que soit le message, c'est... Il faut embrasser nos différences. Ça, c'est
ça.
Vraiment la morale de l'histoire de, vous savez, toutes ces petites
scénettes
qui... ouais, on est tous pareils. Alors ça, c'est le truc de... il faut embrasser nos différences. Et c'est ça, la morale de l'histoire, c'est que sinon, t'es méchant.
C'est ça. Et puis surtout, en fait, finalement, c'est comme si on n'avait pas le droit à un imaginaire, en fait. On peut pas... Comme si on pouvait pas créer des histoires avec des personnages racisés qui sont juste une histoire. Il y a vraiment ce truc où notre présence doit servir ou justifier quelque chose.
Justement, ça me donne envie de raconter une anecdote qui m'a énormément touchée. Un jour, il y a un auteur de littérature jeunesse qui s'appelle Thierry Lenain qui m'a contacté en me disant qu'il écrivait un livre sur l'histoire de la France, en fait, et qui s'appelle, à destination des petits, donc qui s'appelle « Le jour où la France est devenue la France ». Et en fait, ça se passe dans une salle de classe et il y a une prof qui explique à des élèves comment la France est devenue la France. Il dit « Pour la France, la prof, en fait, j'ai pensé à vous ». Et du coup, en fait, il a mis une prof et donc, qui est dessinée par une personne qui s'appelle Tan Portal. Et en fait, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Il dit, bah voilà, j'aime bien ce que vous dites. Et je trouve qu'il n'y a pas de raison que la prof ne soit pas une femme noire, tout simplement. Et ça change absolument rien à l'histoire. Et je trouve que c'est bien, en fait, de se dire que dans un livre de jeunesse, un personnage, en fait, qui est une femme noire, puisse aussi apporter le savoir à des élèves, en fait, qui s'interrogent sur qu'est-ce que la France et tout. D'ailleurs, je vous le recommande, c'est assez rigolo parce que, du coup, la question, c'est comment s'est constituée la France. Et les petits, évidemment, posent plein de questions, font plein de réflexions super intéressantes. Mais je trouve que, oui, c'est pas, on n'est pas obligé de le justifier tout le temps avec tout c'est un ça. Passif qui va être forcément uniquement concernant pour les personnes noires. Et encore une fois, et même si on met des histoires qui concernent en particulier les personnes noires, je vois pas pourquoi les enfants sont capables de s'identifier à des princesses ou à des gens qui ont des pouvoirs magiques, enfin, et pas ne pas s'identifier à des personnes noires qu'elles peuvent croiser tous les jours dans la rue, quoi.
C'est ça. Et en fait, je pense que ce qui m'a, c'est aussi ressorti en fait avec la réception du chemin de Jada. C'est-à-dire qu'il y a eu ce truc où Barbara et moi, on s'est vraiment éclaté à faire un univers qui n'existe pas. Malgré tout, les premières présentations, même descriptives, c'était oui, ce conte africain.
Ah.
Et j'étais là et, ça, on s'est regardé, ouf, hein. Et on s'est
un
regardé
conte
un conte africain. C'est-à-dire que il y a la je parce que justement on n'a pas dit où ça se passe et on a inventé un
monde. Les personnages sont noirs.
Et les personnages sont noirs, donc les gens se sont dit c'est un conte africain. C'est donc en fait il y a vraiment même un enjeu de rééducation du lectorat. C'est-à-dire le nombre même de en salon en fait de parents qui me disent ah oh ouais mais je vais pas lui c'est très joli mais je vais pas lui acheter parce qu'il va pas se reconnaître. Ouais mais j'ai lu Tom et Nana et plein d'autres livres.
Petit ours brun, il se reconnaît bien.
Il se reconnaît bien.
Excusez-moi, Toupie c'est quel animal?
C'est
non,
ça.
Pardonnez-moi, on ne sait même pas ce que c'est.
En plus.
Tout le monde se reconnaît. Je veux dire, ça va, Choupi, c'est un carton. Non, mais moi, je trouve ça dingue, quoi.
C'est ça.
C'est genre,
c'est
il peut
ça.
Se reconnaître dans Choupi, mais pas dans une petite fille noire.
Ah ouais, non, c'est vraiment, il y a vraiment un enjeu de rééducation de l'électorat pour leur dire,
c'est
mais
incroyable.
En fait, nous ouais. aussi, on est l'universel, en fait. C'est ça aussi. C'est un peu cette impensée qu'on ne peut pas mettre des personnages racisés et que ce soit ouvert à tout le monde. Quoi.
Et d'ailleurs, ça, ce qu'on raconte, là, le fait d'être face à une industrie du livre qui ne comprend pas ces enjeux-là et qui, ça, on le voit assez souvent dans les polémiques qu'on peut voir sur les réseaux sociaux. En parlant de princesse tout à l'heure, il y a eu une polémique il y a quelque temps sur un livre de jeux pour enfants, mon livre de jeux princesse, où il y a eu, c'est un jeu de relier, vous savez, les des personnages avec des personnages en fait. Et donc c'était relie chaque princesse à son prince. Regarde bien, ils se ressemblent un petit peu. Donc là, je te montre juste
le
visuel, mais c'est...
Donc on décrit, en fait, il y a quatre princesses avec différents types. Et en face, il y a quatre princes qui ont des types similaires. Donc avec différentes couleurs de peau, différents cheveux. Et en fait, il faut relier les princesses en fonction de leur couleur aux princes qui ressemblent. Quoi. Parce
d'accord.
qu'évidemment, l'homosexualité n'existe pas.
Mais oui, voilà, ça. Et puis les roux vont avec les roux, n'est-ce pas les bruns vont avec les bruns, les
c'est
blonds
ça.
Avec les blonds et les noirs avec les noirs parce que c'est comme une couleur de cheveux, n'est-ce pas?
Bah oui, tout à fait, tout à fait. C'est une incarnation.
C'est délirant.
Une coloration.
C'est une peinture, voilà, exactement. Et donc, il y a eu un tollé sur les réseaux sociaux, à juste titre. Comme toujours, les éditeurs sont choqués, sont scandalisés, il y a la censure.
Comme toujours, c'est le mot-clé.
Et ils font des communiqués. Alors, je reprends juste quelques petits mots du communiqué. Ils disent que les valeurs que nous défendons, ce sont l'émerveillement et l'enchantement. C'est comme si c'était indissociable du racisme, par exemple.
Ouais,
tu vois, et ils disent la diversité culturelle au sein de notre entreprise en témoigne de toute manière.
Ben, bien sûr, mais bien sûr.
Balancer
tout à fait.
La photo.
C'est ça. Moi, je vais retrouver la photo qui a été prise pour les fêtes de toute l'équipe.
Ouais. Et c'est souvent.
Et dans le communiqué, moi, ce que j'aime bien, c'est quand ils disent il n'est possible de nous affubler d'un rétrogradisme malsain. Les gens, en fait, eux-mêmes décident qu'on ne peut pas les critiquer. C'est-à-dire qu'eux, ils décident qu'ils sont complètement irréprochables et que personne, au nom de la diversité culturelle qu'ils prétendent avoir dans leur mur, les critiquer et remettre en question. Alors que nous, on voit, en fait, on s'en fiche de savoir qui ils sont. On voit le résultat de...
C'est
non,
ça.
Mais c'est très clair.
C'est
quoi.
Ça.
Et là, on parle de conséquences sur nos enfants. Et imaginez la conséquence pour un enfant de relier une princesse noire à un prince noir en se disant bah c'est sûr qu'ils vont ensemble. Enfin tu vois c'est
mais c'est comme je crois qu'il y avait un livre qui a fait polémique, enfin qui revient souvent comme un de ces exemples de littérature jeunesse où on pense pas finalement même les enfants racisés comme un lectorat. C'était Je ne veux pas être noir, je crois, le titre du livre.
Oh mon dieu.
Ouais,
Je ne veux pas être noir. Et du coup j'essayais d'expliquer aux gens
que
du coup qu'il y a des il y a a des gens qui se sont mis autour d'une table et qui se sont dit, on va sortir ce livre et c'est top. Et ils n'ont vu aucun problème, en fait. Et donc, non, il y en a beaucoup trop.
Mais ne serait-ce qu'en tant que parent, quel parent va acheter ça? Enfin, je veux dire, c'est quoi le truc d'un parent qui va offrir ce livre à son enfant noir? Enfin, je veux dire, je trouve ça fou de penser qu'un parent va se dire, ouais, tiens, je vais offrir ça à mon enfant, je vais lui offrir un livre qui s'appelle « Je ne veux pas être noir ». Comme ça, tout ira bien dans cette famille.
Ah non, mais c'est ça.
Et je voudrais citer aussi la polémique qu'il y a eu à propos de la comptine Chang, le petit chinois, qui a fait aussi beaucoup couler d'encre l'année, il y a 2 ans, je crois. Ouais. Donc, je vous fais grâce de la lecture de la comptine. Il y a des rimes avec riz, litchi et yeux rikiki. Donc, ça vous donne un peu la teneur de l'ensemble. Hein. Et donc, c'est une comptine qui a été enseignée donc, dans un établissement maternel privé à Aubervilliers. Donc, faut dire qu'à Aubervilliers, je pense que...
Il y a beaucoup d'enfants.
Je pense qu'il y a des enfants qui se sont reconnus mal dans cette cantine et de se dire qu'ils ne voient pas où est le mal et qu'ils se disent qu'on va... Toi, t'es... Enfin,
non, c'est bien, on va parler de vous.
Les enfants. Enfin, vous êtes au centre de l'histoire. t'es pas content? Oh, bah là, on parle pas de toi, t'es pas content, on parle de toi, t'es pas content. Bah, c'est bon, faudrait savoir ce que tu veux. Non, mais c'est vraiment... Et donc, il y a eu vraiment cette prise de conscience. Ça a été annulé par, enfin ça a été interdit par le rectorat. Enfin ils ont pas, enfin interdit, ils ont juste dit qu'il fallait pas la faire. Mais ensuite après ça, il y a pas eu de pourquoi fallait pas le faire.
Ouais.
Parce que l'idée c'est ah non mais c'est bon, ça fait encore crier les indigénistes ou je sais pas qui. ils se rendent pas compte des conséquences sur le psyché d'un enfant qui déjà alors. Tu vois, comme tu nous as raconté dans ton enfance, tu as été moqué par rapport à tes traits physiques. Des enfants à qui on dit « tes yeux sont petits, t'as les yeux bridés ». Et en plus, après, on apprend une comptine qui dit « yeux rikiki ». Ah, c'est toi, ta
c'est ça.
En fait, tout c'est converge fou. Pour ouais. que l'humiliation soit parfaite.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Et surtout, en plus, quand finalement, tout ce qui sort de l'extérieur, que ce soit... Enfin, même pour un enfant qui est en classe et qui voit que son prof trouve OK de faire ce type de comptine, c'est finalement une validation, en fait. Donc jamais, en fait, cet enfant racisé peut se dire, genre, en fait, il y a un problème ou je suis un problème. Il sent qu'il y a un malaise. Enfin, c'est ça qui est horrible, c'est que les gens oublient que les enfants sont des éponges. Et il y a beaucoup, je vois souvent, quand on aborde ces questions-là, justement, de racisme, en fait, même au sein de l'école, il y a beaucoup de personnes qui sont là, surtout des personnes blanches, qui sont là en train de dire, oui, ce sont des enfants, jamais il ferait ça envers eux, ils ne savent pas ce qu'ils font. Non, mais le fait est que finalement, vous avez des enfants qui vont raciser, qui vont grandir avec toutes ces micro- et macro-agressions, et vous les intériorisez, en fait, et vous leur demandez aujourd'hui d'avoir cette espèce de recul, ils savent que c'est pour rigoler. Non, ils savent pas. Ce sont des enfants.
Et puis il faut se dire que voilà, c'est je veux dire si peut-être que enfin voilà, faut penser en fait aux résultats que ça a sur les adultes qui eux ne sont pas visés par le racisme.
C'est-à-dire
que quand tu fais ça à la maternelle, ça donne plus tard Kev Adams qui fait un sketch sur M6 parce que en fait quand il était petit à l'école, on lui a dit que c'était OK de chanter Chang le petit chinois.
C'est ça.
Et c'est ça qu'on ne réalise pas.
C'est
je trouve ça.
C'est la répercussion.
C'est-à-dire qu'on comprend pas que le racisme c'est un apprentissage.
Mm-hmm.
C'est un apprentissage qui conduit en fait certains enfants à intérioriser le fait qu'ils ne valent rien
mm-hmm.
et d'autres enfants en fait qui deviennent adultes se disent bah OK, on peut faire des blagues sur ça mm-hmm. parce que depuis que je suis petit, c'est ce que j'entends.
Ouais, ouais, ouais.
Et un enfant qui doit apprendre par cœur par cœur une comptine ou peut-être pas par cœur en maternelle, mais qui doit chanter à tue-tête quelque chose qui se moque de lui alors que c'est censé l'honorer. Hein.
Mm-hmm.
C'est-à-dire que là, on voit déjà l'espèce de contradiction. Et ensuite, plus tard, quand il grandit, il faut qu'il passe au-dessus ou qu'il ait de la dérision à propos de quelque chose qu'il a affublé, qu'il a rapetissé, qu'il a amoindri pendant tout ce temps. Enfin, en fait, c'est très difficile pour... Il y a vraiment un espèce de...
Ça demande une gymnastique intellectuelle que personne ne peut faire.
C'est terrible. Et ça a beaucoup d'effets néfastes sur la confiance des gens, l'estime de soi. Mmh. Enfin, la représentation, elle est là aussi pour ça, pour qu'ils absorbent des choses qui soient justes, des représentations justes, et pas des choses réduites, tronquées, fausses, risibles, comme c'est le cas pour les personnes asiatiques, noires, et d'autres personnes d'ailleurs. Hein,
C'est clair. Et toi, du coup, quels sont les retours des parents qui achètent tes ouvrages? Est-ce que toi, tu communiques avec eux? Est-ce qu'ils te font part des retours par rapport à leurs enfants, mais aussi pour eux, ce qu'ils ressentent à la lecture de ces ouvrages?
Ouais, complètement. Je pense que le plus marquant, c'est quand même que Papillon Noir, c'est un livre qui a été très porté. Il y a vraiment une communauté qui s'est formée à l'époque où il n'était pas encore disponible dans les librairies. Donc, que ce soit par réseaux sociaux, il y a vraiment eu une mobilisation. Autant de parents qui disaient « merci ». En fait, j'ai beaucoup de merci de voir en fait un contre-récit en fait de tout ce qu'ils voyaient en général ou ne voyaient pas sur la représentation d'enfants noirs, sur le fait qu'ils puissent avoir une conversation avec leurs enfants est-ce qu'à l'école aussi on se moque de tes cheveux ou de ta peau, des choses comme ça. Il y a vraiment eu une démarche de partage, en fait. Papillon Noir, ça a été aussi le livre où beaucoup de personnes m'ont dit je l'offre en cadeau de naissance à toutes les personnes que j'ai autour de moi. Et je trouvais ça génial. Je trouvais ça génial que ce soit... que finalement, mon livre remplisse aussi ce but, que ce soit un support de discussion, en fait. Pas uniquement, en fait, chez les familles noires, finalement. Aussi, il y a beaucoup de profs, de psychothérapeutes, de médiateurs aussi, dans les milieux scolaires, en fait, qui ont vraiment utilisé, en fait, surtout Papillon Noir, comme support pour aborder ces questions-là, et surtout à tous les âges. Vraiment, je crois que la partie que j'ai adorée, alors notamment, il y avait certes les retours des parents sur comment leurs enfants, des petites filles noires, finalement, acceptaient de faire leur propre shampoing toute seule, ou à commencer à apprendre à se coiffer, ou à aller à l'école en disant « je suis coiffée comme Adé ».
C'est génial.
Donc, je trouvais ça génial. T'as lancé
Adé, c'est vraiment une héroïne de notre temps, parce que moi, je... je t'assure que moi, j'ai entendu des petites filles parler d'Adé.
Ah oui, elle vit sa vie. Franchement, moi, elle vit sa vie. C'est un truc incroyable.
Excellent.
Et surtout, même des adultes, des femmes noires qui me disent « mais j'aurais voulu avoir ce livre. »
Ah, c'est un super compliment.
Ouais, ce livre plus jeune. Soit quoi, je réponds que les adultes ont droit d'acheter de la jeunesse.
Complètement.
Pour le petit enfant que vous avez encore en vous.
Et est-ce que tu dirais que, comme tu as beaucoup écrit sur ton blog, qui est une référence afroféministe française sur Internet.
Ouais, sous le pseudo de Mrs. Roth.
Ouais.
Est-ce que Adé et Jada et sa sœur sont une continuité de ton travail afroféministe de conscientisation, de partage, de tout ça.
Complètement. Et pour moi, en fait, c'est vraiment des créations qui s'ancrent dans ma démarche. Donc après, ce que les personnes y voient, ensuite, c'est un livre, ça s'investit, en fait. Donc je pense qu'il y a plein de gens qui peuvent voir plein de choses dans mes livres pour enfants, sans connaître mon blog ou même tout ce que j'ai fait auparavant. Mais pour moi, clairement, c'est une continuité. C'est-à-dire que je vois ça, c'est assez organique, en fait. Pour moi, c'est mettre la présence des femmes dans Comme un papillon noir, ou le fait de mettre en avant une petite fille noire comme Jada, qui est une peau foncée, et de retravailler l'illustration avec des effets de lumière, pour moi, ça a du sens, en fait. Ça a du sens dans le fait qu'aujourd'hui, on a droit, en fait, déjà à une estime de nous-mêmes. On a droit, en fait, à investir aussi un amour de nous-mêmes. On a droit aussi à partager, en fait, à avoir des références qui nous fassent rêver et pas qu'ils soient toujours dans un contexte historique très dur, parce que voilà, il y a beaucoup de références historiques dures autour de l'histoire des communautés afro. On a droit, en fait, à des imaginaires, en fait. Et je pense que les gens sous-estiment trop le pouvoir de la fiction. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé mon blog. C'est parce que j'ai vu un livre de Toni Morrison qui avait une héroïne noire qui faisait l'aller-retour entre la France et une île des Antilles, en fait. Et du coup, c'était le personnage qui avait la trajectoire le plus proche que j'avais jamais vu. Et j'avais 20 ans. Attendre 20 ans pour trouver un personnage qui fait écho, c'est voilà. Donc, pour moi, ça a du sens, du coup, de produire des productions qui, je l'espère, feront que des enfants tomberont très, très tôt sur des livres qui leur disent « vous n'êtes pas une anomalie, vous n'êtes pas un problème en tant que tel ».
Et tu écris aussi pour les adultes, parce que est-ce que tu peux nous parler de ton nouveau projet
Tu avais déjà publié un roman.
Ouais, tout à fait. Mmh. J'avais publié un roman en 2016 qui s'appelle « À main nue » aux éditions Synapse, qui pour l'instant est pas encore dispo, donc on travaille sur sa réédition. Et donc, très récemment, j'ai commencé un roman en ligne illustré qui s'appelle « Nos jours brûlés », qui est illustré par une super illustratrice qui s'appelle Nine Salone, et qui retrace, qui est vraiment dans un univers fantastique afro, inspiré des mythes d'Afrique francophone et des croyances d'Afrique francophone. Donc, on suit en fait une héroïne qui se retrouve dans une société où le jour a disparu. Et donc, il va tenter, avec l'héritage qu'elle a en fait de sa famille, de faire revenir le soleil. Et donc, il va amener à rencontrer pas mal de déesses et de dieux issus de différentes mythologies d'Afrique francophone. Donc, c'est un projet sur lequel je travaille depuis hyper longtemps. Et donc, c'est une petite vitrine d'un projet beaucoup plus grand de saga dont je parle depuis pas mal d'années. Et donc, il est disponible, il est accessible sur Internet.
Ah, c'est super. Ouais. Et toi, donc, quand tu te décris, tu te considères comme étant afroféministe. Mmh. Est-ce que tu te considères comme une activiste également ?
Je suis toujours méfiante du terme activiste. Mmh. En fait, je trouve que
militant,
c'est...
Militant, enfin, ouais. Ça dépend de... Ouais.
Je me décris souvent comme engagée, mmh. Parce que je pense que le terme militante ou activiste, il y a beaucoup de... C'est souvent les gens qui le posent à quelqu'un, mm-hmm. en fait. Et donc, mm-hmm. je me vois comme engagée. J'ai pas vraiment de recul sur ce que je fais, en fait, depuis mm-hmm. tant d'années. Je sais comment je travaille, je sais ce que j'essaie d'investir, etc. Mais ouais, j'ai tendance plus à me dire afroféministe ou engagée.
Et est-ce que tu peux nous parler d'Afrolab ?
Oui, alors Afrolab, donc c'est un incubateur, en fait, un accélérateur de projets que j'ai fondé en 2017. Donc à l'origine, c'était une journée d'atelier en fait, qui était ouverte aux femmes noires pour les aider à décomplexer leur rapport à la création. Donc c'était rendre accessible gratuitement pendant une journée des ateliers sur comment faire un podcast, comment faire un roman, comment faire une chaîne YouTube. Et puis vraiment avec cette envie de fournir des outils pratiques, c'est-à-dire si tu n'as pas de thunes, comment tu fais pour avoir un bon matériel audio ou vidéo, des choses comme ça. Et donc en 2018, pour la deuxième édition, j'ai deux associés qui m'ont rejoint pour en faire vraiment un accélérateur et donc pour nous permettre d'accompagner sur un temps donné des projets portés par des femmes noires. Et donc là, cette année, donc, on accompagne le projet Incali, qui est porté par Marie Da Silva, que vous avez reçu.
On a reçu voilà, dans l'épisode Comment sur Rue Rotaf.
Ouais, qui est trop bien.
Merci.
On accompagne également le site Broken Abroad, donc, qui est un site en fait, touristique, mais qui valorise pas mal aussi les pays d'Afrique francophone dans son offre. On accompagne aussi la plateforme Afropéa, donc, qui met vraiment aussi des archives artistiques autour de l'afropéanité en ligne, etc. Donc, c'est vraiment très diversifié. On a un site, si vous voulez voir ce qu'on fait, afrolab.fr.
Super.
Et donc, voilà, donc c'est un truc que c'est un projet, en tout cas, sur lequel on travaille depuis maintenant 2-3 ans, ouais.
Et tu as aussi un projet pour encourager les gens à écrire dans la littérature
Ouais, il y a aussi un atelier en fait qui est disponible. Alors, en fait, notre but aussi c'est sur le long terme de proposer aussi des ateliers en ligne ou même des vidéos qui permettent justement aux gens d'avoir une introduction en fait un petit peu touche à tout. Puis vraiment cette idée de désacraliser en fait. Je rencontre trop trop de femmes noires ou même de femmes racisées qui s'interdisent en fait d'écrire parce qu'elles pensent direct qu'elles doivent être un prix Nobel en fait pour commencer à écrire ou même pour commencer une émission de radio ou quoi que ce soit en fait. Donc pour moi c'est important de laisser la place à des gens pour dire en fait tu vas faire beaucoup de ratés et ça va très bien se passer.
Oui, parce qu'il y a des gens qui publient des livres ratés. Hein.
Exactement. Exactement.
Et qui font la télé, la promo.
C'est ça. Argument numéro 1. C'est l'argument numéro 1 que je leur dis à chaque fois. Ils me disent ah ça va mieux. Voilà.
En tout cas, bravo, t'es très active dans plein de domaines.
Merci.
C'était un grand plaisir de te recevoir. Merci beaucoup. On vous recommande ces ouvrages, Le chemin de Jada et Comme un million de papillons noirs, qui sont tous deux édités aux éditions Cambourakis.
Le site mrsroots.fr.
T'es très active aussi sur Twitter.
Ouais.
Ah oui. c'est Mrs. Roots Books, ton Twitter.
Ça c'est Instagram.
Ah pardon. Voilà, Instagram aussi. Ouais. T'es là.
C'est ça.
Et sur Twitter, ton
Mrs. X Roots. Ah. Voilà.
On arrive à la fin de ce Kif Taras consacré à Lorenza Fou et à la représentation dans la littérature jeunesse. Merci beaucoup d'avoir
répondu
présent, d'être venu en ce premier jour de déconfinement des terrasses parisiennes.
Ouais, ça, exactement. Ça. Merci. Si vous avez des expériences similaires, si vous voulez partager votre opinion par rapport à ce qu'a dit Laura, si vous-même vous écrivez ou si vous lisez beaucoup, si vous avez des enfants, ou si vous n'êtes pas d'accord, vous trouvez que c'est scandaleux d'écrire et de mettre en scène des personnages noirs et qui en plus ne se passent pas en Afrique, enfin on ne sait pas trop, n'hésitez pas à nous faire part de vos avis, on adore discuter. Kif Taras, c'est un podcast de Binge Audio qui est réalisé aujourd'hui par Quentin Bresson. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode de Kif Taras. Vous pouvez nous suivre évidemment sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook et sur nos comptes respectifs, Grace Lee et Rokhaya Diallo. Merci Grace.
Merci Rokhaya.
Merci Laura.
Merci à vous.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.